Nathaniel Hawthorne par Leo Kennel. Nathaniel Hawthorne est le plus populaire des romanciers américains. On peut le comparer à Dickens pour l'influence qu'il a exercée sur ses contemporains, à Balzac pour le talent. Comme tous les écrivains originaux, il a laissé derrière lui une trace durable. Ses ouvrages resteront classiques en leur genre au même titre que ceux des deux hommes que nous venons de nommer. En Angleterre, à Leipzig, à Berlin, on en a multiplié les éditions. Aux États-Unis, le nombre des exemplaires tirés est incalculable, et récemment encore, on vient d'éditer, pour la 5e ou 6e fois depuis 30 ans, les œuvres complètes de l'excellent romancier. Hawthorne a été l'ami d'Emerson, de Longfellow, d'Henry Channing, de tous les écrivains contemporains de son pays les plus justement estimés comme homme et comme auteur. Né à Salem, dans le Massachusetts, vers 1807, il fut élevé à Bowdoin College et s'y lia d'amitié avec Franklin Pierce, plus tard président des États-Unis. De cette intimité qui a été continuée toute la vie, est née La vie du président Pierce, une des biographies les plus intéressantes et les plus instructives qui ait jamais été faite. Au sortir du collège, Nathaniel mena une vie studieuse et retirée jusqu'à l'âge de 25 ou 30 ans. Quoique poète par toutes les fibres de sa nature, il était propre aux affaires, remplissait sagement les fonctions d'officier du fisc à Boston, et montrait une fois de plus par son exemple que l'emploi des facultés supérieures de l'esprit peut s'allier heureusement avec l'accomplissement des devoirs vulgaires. Jamais esprit ne fut plus sain, plus calme, plus pratique que celui de ce rêveur et de cet artiste. Jamais l'opinion populaire sur le trouble qu'amène dans la vie de famille une imagination puissante ne rencontra plus éclatant démenti. Nathaniel Hawthorne appartenait à l'ancien comme au nouveau monde, ayant beaucoup voyagé en Europe et résidé à Liverpool comme consul des États-Unis. Cette circonstance a imprimé à son génie, naturellement porté vers la philosophie, un caractère d'universalité qui prête à ses ouvrages une valeur supérieure, même à celle que leur donne leur perfection artistique. La pensée morale y est toujours transparente, et malgré le mérite de la forme, celui du fond, c'est-à-dire de l'idée, l'emporte de beaucoup. La frêle santé de ce fécond et délicat écrivain ne résista pas longtemps au double travail des affaires et de la création incessante d'œuvres d'art. Il mourut presque subitement à Plymouth en l'année 1864, laissant derrière lui une moisson presque mûre de manuscrits qui n'a pas été entièrement perdue. Chapitre 1er. L'ouvrage qui a commencé la réputation de Hawthorne, car ses premiers écrits étaient restés anonymes, est The Twice Told Tales, Les Contes Anciens, paru en 1832. Mais celui dont le titre est invariablement associé à son nom est The Scarlet Letter, La Lettre Écarlate, dont nous avons déjà parlé à cette place. Peut-être est-ce en effet le plus fortement construit, celui qui s'empare le plus puissamment de notre cœur. On y assiste au tourment d'une épouse coupable placée dans le milieu cruel et redoutable d'une société pharisaïque ou puritaine. Toutefois, ce n'est pas selon nous dans cet émouvant roman que Nathaniel Hawthorne s'est élevé le plus haut. Ce n'est pas non plus dans ses romans si connus qui sont intitulés « The House with the Seven Gables »,« La maison aux sept pignons »,« The Marble Faun »,« Le faune de marbre », »,« The Blithedale Romance », tiré des souvenirs de son séjour à Brook Farm, le plus heureux coin de l'Union, « Our Old Home »,« Notre vieille patrie », charmantes esquisses des mœurs anglaises, que l'on peut voir l'esprit de Nathaniel Hawthorne sous son véritable jour. Les deux romans qui le font bien connaître sont Transformation et Septimius. Ce dernier, qui est un ouvrage posthume, nous montre à quelles idées sur la vie et le bonheur l'avait amené l'expérience. C'est comme le résumé de sa philosophie, de sa science et de sa morale. Comme fiction, Septimius est une étrange histoire qui nous reporte de 5 siècles en arrière. Superstitions populaires, légendes sanglantes, rêves d'alchimistes, tout le mécanisme du roman fantastique est remis en jeu par une imagination féconde. Nous voyons là un jeune homme épris des sciences occultes du Moyen-Âge, penché sur des manuscrits hiéroglyphiques pour y chercher le funeste secret du breuvage d'immortalité. Septimius est sous l'empire de cette idée, vraie hélas, mais que l'homme doit bannir, que la vie ne vaut pas d'être vécue à cause de sa brièveté. À côté de son existence triste, tourmentée, quelquefois coupable, car dans son ardeur de recherche scientifique il se livre parfois à des expériences criminelles, se développe la vie sagement pratique de Robert Hagburn, un soldat laboureur content de vivre un seul jour, si ce jour est bien rempli. Cette donnée prête aisément aux réflexions philosophiques, ou plutôt les enseignements philosophiques sortent naturellement du développement de la donnée. Ce qui rajeunit ce vieux sujet, c'est que la scène se passe sur la Terre nouvelle d'Amérique, à l'époque de la guerre de l'indépendance. L'intrigue, qui est savante et compliquée, a pour base la transplantation d'une vieille famille anglaise sur le sol du Nouveau Monde. Le rideau se lève sur une scène guerrière dans un village. Un cavalier, quelques valets de ferme du hameau voisin, traversent le village au galop en poussant le cri d'alarme. Bientôt apparaissent les habits rouges, les Anglais, qui mettent pied à terre auprès de la fontaine publique pour désaltérer leurs chevaux. Une jeune fille, une paysanne de grande race, debout près de la fontaine, évoque dans notre esprit l'image immortelle de Rebecca. « Voulez-vous me donner un verre d'eau, ma charmante enfant ?» lui dit un jeune et brillant officier avec une grâce incomparable. « Voici votre salaire. » Et il l'embrasse devant Septimus, son amant. « Arrière !» lui crie celui-ci. « Insulter une femme est d'un lâche !»« Mon ami, » répond l'officier, « vous pouvez prendre votre revanche et me tuer de derrière une haie ?» Septimus, qui est un savant de cabinet et nullement un garçon sanguinaire, ne goûte point à ce dédaigneux conseil. Il rentre en tournant sa colère contre la jeune fille, ce qui peint bien la nature de l'homme, et les soldats anglais s'éloignent. Mais les hasards de la guerre font ce qu'ils ne voulaient pas faire. Ils tuent le jeune officier et celui-ci, en tombant, le reconnaît. « Mon ami, » lui dit ce jeune brave sur qui se concentre l'intérêt du lecteur et dont la personnalité touchante domine tout le roman, quoiqu'il n'y paraisse qu'un instant, « Mon ami, prenez mes armes comme votre légitime trophée de victoire. » Prenez ma bourse pour les orphelins et les veuves. Prenez ma montre comme un présent que je vous fais pour mesurer les heures qui vous restent à vivre. Prenez aussi ce papier qui m'a été légué par mes ancêtres. Papier précieux, dit-on, mais que je n'ai jamais pu lire. Puis laissez-moi prier et mourir. Quand je serai mort, je vous demande de creuser ma tombe à la place même où je suis, car un soldat ne repose nulle part aussi bien qu'à l'endroit où il est tombé. Cet endroit faisait partie de la propriété de Septimus. Il y ensevelit son ennemi devenu son ami, car après le père et la mère qui nous donnent la vie, l'être qui nous tient de plus près est celui qui nous donne la mort. Et Septimus sema des fleurs sur sa tombe et chaque jour vint y méditer. Pendant ce temps, il s'efforça de déchiffrer le manuscrit illisible dont la mort l'avait fait possesseur. Ce mystérieux papier contenait précisément la formule du breuvage d'immortalité, objet de son incessante recherche. Au milieu de prescriptions hygiéniques et morales qui sont à la médecine ce que le traité de la civilité puérile et honnête est à la politesse, un ingrédient est indiqué comme nécessaire à la confection du breuvage. C'est une fleur rare, qui ne croît que sur la tombe d'un jeune homme innocent mort de mort violente. Il faut que les racines se nourrissent de la substance même de sa chair. Quelle n'est pas la surprise de Septimus quand il voit croître, à l'endroit où repose l'Anglais, la fleur d'immortalité. Sa victime lui offrait à la fois le secret désiré et la chose nécessaire pour pouvoir en faire usage. Ici se place une page de prose anglaise qui est un des morceaux les plus remarquables de notre auteur et dont nous voudrions qu'il fût possible de rendre l'énergie dans une traduction française. Septimus, avidement penché sur la plante, vit que la fleur entrouverte ne serait pas la seule qu'elle produirait dans la saison, qu'il y en aurait une grande abondance, une moisson luxuriante, que leur corolle pourprée couvrirait le tumulus, comme si la résurrection du jeune homme éclatait en une végétation couleur de sang. Et chaque jour, la plante étendait son feuillage plein de sève, forçant les plantes plus faibles à disparaître, comme la vie chasse la mort. Et chaque jour, l'étrange fleur rouge fleurissait sur la tombe. Le brûlant été réjouissait ses corolles. La pluie et la rosée lui prodiguaient leurs fraîches caresses. Le sol dans lequel elle plongeait ses racines était riche, car c'était un cœur humain qui l'engraissait. Un cœur dans toute l'ardeur d'une vaillante jeunesse, plein d'amour et de colère, d'espérance et de désir, d'ambition bouillante, de tendres rêves et de sanglots mêlés ensemble dans la fournaise de la vie. Un cœur qui était là, baignant dans son sang et vivant encore dans la pourpre mystérieuse de cette fleur qui ne porte qu'un nom, Sanguinea, Sanguinissima. L'impression que le lecteur emporte de la première partie du livre est une impression salutaire. l'horreur de la guerre et de la guerre fratricide, car il se trouve que Septimius et la victime sont proches parents. En voyant tout ce sang froidement répandu sous prétexte d'honneur et de devoir, on éprouve de l'aversion pour les mœurs guerrières. Et cette aversion est d'autant plus forte que la scène se passe au milieu des enchantements paradisiaques d'une terre vierge et de campagnes solitaires. La leçon qui ressort du reste de l'ouvrage est conforme à l'optimisme le plus sage et le plus heureux. Cette leçon, l'auteur nous la donne par la bouche d'une jeune fille d'une beauté idéale, qui fait comprendre à Septimius l'horreur qui s'attacherait à la réalisation de son désir. Cette jeune fille dont il est épris, et qui feint de répondre à son amour, lui porte une haine secrète, parce qu'elle sait, par une intuition mystérieuse, qu'il a tué l'officier, son fiancé. Elle répond avec une ironie voilée, mais sanglante, à ses promesses d'immortalité. Ses répliques sont d'une vérité saisissante et nous montrent que ce ne serait pas impunément que l'équilibre humain pourrait être troublé. Le thème de The Birthmark, le signe, un des sujets qui compose la série de contes intitulée Mosses from an Old Manse, mousse d'un vieux presbytère, est à peu près le même que celui de Septimius. Un alchimiste d'une science profonde a épousé une femme admirable dont la seule imperfection est une tache naturelle à la joue affectant la forme d'une petite main rouge. On l'appelle la main sanglante. Oui, c'est la main sanglante en effet, car c'est le symbole du lien de chair et de sang par lequel cette créature divine tient à l'humanité. Et comme la perfection n'est pas de ce monde, comme il faut l'ombre à la lumière, il arrive que le jour où le savant Aylmer est parvenu à composer le breuvage qui doit faire disparaître de la joue de Georgiana ce signe de la nature terrestre qui le désespère, la belle créature disparaît en même temps. La scène dans laquelle Georgiana attend son époux porteur du fatal breuvage est très belle et très élevée. Elle réfléchit au caractère d'Aylmer et lui rend plus pleinement justice, qu'elle ne l'avait fait même au temps où il vantait comme un signe de beauté cette marque au visage qui aujourd'hui lui fait horreur. Elle tremble, mais son cœur exulte de joie en se voyant l'objet d'un amour si noble et si pur qu'il ne peut se contenter de rien moins que de la perfection absolue. Elle sent combien ce sentiment est plus honorable pour elle et plus précieux en lui-même qu'une affection vulgaire, qui se serait bornée à chercher le mélange ordinaire du bien et du mal dans l'objet aimé et qui aurait trahi le saint amour en abaissant son idéal au niveau de l'imperfection terrestre. Et au fond de son âme, Georgiana demande au ciel que pour un instant, il lui soit donné de pouvoir répondre à la plus haute conception de la beauté à laquelle son époux puisse atteindre. Au-delà d'un instant, elle sait bien que cela ne peut être, car l'esprit de cet homme est toujours en marche, et sa pensée monte sans cesse. À chacune des heures de sa vie, il faut un idéal plus haut que celui qui a rempli l'heure précédente. « Oh, mon Aylmer, » dit-elle après avoir bu l'élixir de perfection, « Oh, mon Aylmer, cette eau délicieuse a calmé la soif qui me dévorait. Mais laisse-moi maintenant dormir. Tu as eu un but digne de toi. Tu as noblement agi. Ne te repens pas si tes sentiments élevés t'ont forcé de rejeter ce que le monde t'offrait de meilleur, et si tu m'as conduite aux portes de l'éternité. Je vais mourir, Aylmer. Mes sens se referment sur mon âme comme les feuilles sur le cœur de la rose au coucher du soleil. Je vais mourir, et je te remercie. » Chapitre 2. Ces courtes analyses nous donnent une idée suffisante de la manière favorite de Hawthorne. Il aime, en véritable poète, à revêtir une idée morale de forme merveilleuse et fantastique. Les traditions du Moyen-Âge lui sont surtout familières. Toutefois, un côté de son talent le rattache à son siècle, l'art avec lequel il mêle le réel au merveilleux. Dans une certaine mesure, ce rêveur est un peintre réaliste. Il entoure ses inventions les plus extravagantes de détails d'une vérité saisissante, soit qu'il peigne, comme dans les mousses d'un vieux presbytère, un manoir délabré d'où le pasteur contemple, dans l'angoisse d'un chrétien et d'un père, l'armée des puritains aux prises avec l'armée anglaise dans la prairie voisine, soit qu'il détaille une avenue de frênes striée de rayons de soleil, soit encore qu'il nous fasse assister aux souffrances d'une vieille femme courbée sur l'âtre, comme si elle eût voulu en rassembler toute la chaleur dans son sein glacé, et gémissant à chaque mouvement respiratoire, comme si les derniers souffles de la vie eussent été autant de cris de colère contre ce monde impitoyable. Il sait attacher notre cœur à des récits purement imaginaires, comme si c'était des réalités. Il nous arrache à notre atmosphère naturelle. Il nous transporte dans un milieu fictif de sorciers et de démons, et pourtant il produit sur nos sens une illusion complète. À voir et à sentir de si singuliers effets, de si ridicules terreurs, de si étranges palpitations, nous croyons volontiers que de tous les magiciens qu'il met en scène, Hawthorne est le plus puissant. Au point de vue du style et de ce que les peintres appellent la facture, ni Balzac, ni Dickens, ces deux maîtres, n'ont plus dextrement manié la plume. N'était que les descriptions de Hawthorne sont, comme chez la plupart des romanciers anglais, d'une longueur interminable, on pourrait les citer comme des modèles de bonne exécution. Voici par exemple un savant médecin naturaliste, passionné pour les araignées dont il se plaît à étudier les mœurs, et dont il croit pouvoir utiliser la substance dans sa pharmaceutique. C'est un petit homme roux et trapu, mystérieux comme un sorcier. Le jeune homme entra, mais il fut si frappé de l'aspect de la chambre du docteur Portsoaken qu'il demeura un moment interdit. Tout était sale et couvert de poussière, ce qui prouvait que jamais femme n'avait violé le secret de ce sanctuaire. Ce qui le prouvait encore, c'étaient les légions d'araignées qui avaient filé leurs toiles sur les murs et sur le plafond. Ces toiles paraissaient disposées en désordre, quoiqu'il fût certain que chaque araignée connaissait parfaitement le cordage qu'elle avait tiré de ses entrailles miraculeuses. Le coup d'œil était bizarre. À force de festons et de guirlandes, les industrieux insectes avaient fini par former une tapisserie sombre qui se balançait, lourde et triste, avec les brodeuses, suspendues chacune au centre de son système. L'objet le plus merveilleux était une araignée gigantesque, une araignée d'espèce sud-américaine qui pendait sur la tête même du docteur. Ses pattes eussent pu embrasser une tasse à thé et son corps était aussi large qu'un dollar. Le cœur se soulevait à l'idée qu'une pareille bête pût être écrasée sur le plancher, et la chair frissonnait à l'idée du danger qu'il y avait à laisser vivre cet être vénéneux. Le monstre, tranquillement assis dans ses cordages, au milieu de l'assemblée nombreuse de ses congénères, était comme le symbole d'un chef de conspiration, ou bien d'un rusé politique au milieu de ses complexes projets. Et le jeune homme pensait que c'était peut-être le symbole du docteur lui-même, qui était là, gros et tapi, lui aussi, comme l'araignée, au milieu d'une combinaison scélérate, et il se demandait si lui, pauvre enfant, n'était pas la mouche fascinée, destinée à tomber dans la toile traîtresse. Ce petit morceau appartient à un ouvrage posthume de Nathaniel Hawthorne. À mesure que cet excellent romancier avançait en âge, son talent se perfectionnait. Sa mort prématurée a dû laisser d'autant plus de regrets que, de même que son alchimiste Aylmer, il était un de ces hommes dont la pensée monte toujours et l'idéal s'éloigne sans cesse. La mort, ce grand et fascinant mystère, lui ouvrait ses perspectives inépuisables. Il la regardait avec délice et avec horreur. Jamais la nature humaine ne frissonna plus que chez Hawthorne devant un cadavre. Jamais personne ne se pencha plus avidement sur une tombe. Jamais nul plus que lui n'eut la sensation physique et morale des dernières agonies. On eût dit qu'il avait déjà fait l'expérience de la mort et de ses humiliations terribles. Mais la transformation de la vie occupait surtout sa pensée. La croyance à l'identité persistante de l'individu l'attirait comme tous les humains. Les apparences physiques de la mort le troublaient comme tous les penseurs. Cependant, il surnageait toujours sur l'abîme, porté sur quelques minces débris de sa foi chrétienne, comme un naufragé sur une épave. Hawthorne n'était étranger à aucune doctrine philosophique ancienne ou moderne, mais il lui manquait d'avoir fait un choix entre elles, ou plutôt il avait cette fortune, si grande pour un artiste, un poète, un écrivain, de chercher toujours. Plusieurs de ses romans ont pour théâtre le Nouveau Monde et pourtant l'époque glorieuse de la guerre d'indépendance. Mais Hawthorne n'est point exclusivement le romancier national. La plus belle de ses fictions poétiques, Transformation, se passe en Italie. Là, comme dans la plupart de ses ouvrages, le réel et l'impossible sont mêlés avec les apparences de la plus frappante vérité. La vie journalière italienne n'a jamais été mieux peinte. Et jamais non plus la passion et le crime n'ont revêtu des formes plus bizarres, plus imprévues. Mais l'idée philosophique n'est jamais absente de l'esprit de Hawthorne. Et ici, cette idée est que la pureté d'une âme humaine, pureté incarnée dans une femme, triomphe de toutes les forces de la société et répand sur les maux et les biens de la vie un éclat divin. Qu'il vive et nous fasse vivre en Europe ou en Amérique, il est toujours le penseur universel dont nous avons d'abord parlé. Outre son roman de Septimius, les enfants de Nathaniel Hawthorne ont publié après sa mort des passages d'un livre de notes sur l'Angleterre, qui sont à notre avis tout ce qu'un voyageur artiste et poète peut décrire de plus intéressant sur ce pays. Les Anglais ne goûtent pas beaucoup ces deux gros volumes, très riches en descriptions et en observations de toutes sortes, par cette raison que le modèle est rarement satisfait de son portrait. Cependant, ses notes sont généralement bienveillantes. Lues simplement comme impression de voyage, il nous semble qu'elle serait un bon guide et qu'on pourrait, à la seule condition d'en élaguer quelques parties, en faire une traduction agréable à des lecteurs français. Nous disons à la condition d'élaguer, car Hawthorne a le défaut des écrivains de fiction anglais, il est déplorablement long. On est surpris qu'une pareille tendance persiste au milieu de ce peuple américain qui connaît si bien le prix du temps. Ainsi s'achève Nathaniel Hawthorne par Léo Quesnel.